Ils ont toujours essayé de faire les pay-per-views, ça n'a jamais marché. Les promos étaient mal faites, on les faisait live pourtant. Mais en tout cas, et j'étais avec le tourneur, tu te souviens, Bertrand, de l'époque Blondin le tourneur?
Oui.
Et Rick était avec nous autres, puis Rick, il me dit, écoute, je sais pas comment te dire ça, là, mais moi, là, du niaisage, là, puis des jokes, là, c'est vraiment pas mon fort. Fait que, puis Rick, c'est un gars que j'ai toujours bien respecté, puis il amène ce respect-là. Fait que, tu sais, quelqu'un comme Rick Martel qui te regarde puis qui te dit, regarde, toi, là, t'es un épais, moi, j'ai pas le goût de faire l'épais. C'est un peu ça qu'il m'a dit, OK?
Il a dit ça à toi ou à les tourneurs?
À moi, pas le tourneur, mais c'était plus, moi, toujours été plus épais que les autres, là, et j'en suis Pierre. Et trois mois après, il fallait que j'arrête Rick Martel dans les niaiseries. jamais j'aurais pensé ça. Il a embarqué là-dedans. Il descendait de Québec, il venait à RDS. On a ri, on a eu du plaisir. Et une anecdote, on est à, je pense, à Denver, au Colorado. Puis comme on disait, les États-Unis, c'est bien plus beau que le Colorado. Ou le Colorado, c'est plus beau que les États-Unis. Et on s'en va manger dans un steakhouse. Il y avait tard. Tu sais, mon chum Marc Lacroix, le tourneur, Rick Martel et moi. Là-dedans, il y en avait trois qui étaient capables de se payer un bon lunch et il y avait le tourneur. Et là, on rentre dans le resto. Mais c'était de voir nos faces. Là, tu sais, j'ai sorti dans ma vie, Rick Martel a sorti dans sa vie, Thor a sorti dans... Puis il y a Michel le tourneur. Et là, on s'assoit, on regarde le menu. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, sauf cette fois-là. On regarde le menu style, tu sais, la pomme de terre, 15$. Le steak, 40$. Le pain, c'était ridicule. J'ai le menu, là je me dis, je vais avoir de la cheap en estique si je dis je m'en vais. Là, je lève mes yeux, mais Thor, Martel, puis moi, les trois, on se croise les yeux, on met le menu sur la table. Le tourneur, lui, devait être en train de fondre, parce que c'était comme 6 mois de salaire de maison qu'il vendait. Hey, mais c'était drôle de voir Rick Martel, Blondin, puis tout ça, se lever d'un restaurant, puis partir, parce que c'était trop cher. Mais c'était pas trop cher, c'était ridicule. Excuse, Bertrand, je te redonne maintenant la... Ah, vas-y.
C'est bien correct. Ben, c'est ça. Ça fait que ça. Comme pièce matérielle, là, physique, là, je veux dire, pour moi, parce qu'en plus, j'ai fait la recherche, là, ces briquets-là, Fritz Von Erich en a donné très peu. Là. Fritz Von Erich, là, qui était le gros promoteur du Texas, là, le père du Texas Tornado et de le grand-père là, de
Kerry Von Erich,
de Lacey Von Erich qu'on a vu à la TNA. Là. Donc, c'est ça. Là. Donc, il en avait fait faire très peu de ces briquets-là, puis il en a donné à quelques personnes dans le monde de la lutte. Donc, ils sont très rares et très spéciaux, là, parce qu'ils ne donnaient pas ça à tout le monde.
Bertrand, juste à faire un... juste poser la question, c'est que dans cette époque-là, où ce que Marc était, il y avait une panoplie de Québécois, et puis dernièrement, on a débattu sur qui serait en liste pour les prochains Québécois. Toi, as-tu une petite idée de la fameuse liste qu'on voulait faire?
Ben, encore une fois, c'est comme selon moi, ce qui manque le plus là-dedans, c'est est-ce qu'on fait une émission de 30 minutes, de 1 heure, de si on fait une émission de 30 minutes, je pense qu'on est correct, là. Tu sais, avec un montage, si l'émission n'est pas en direct, avec le montage, on peut, avec une couple d'invités, on peut bâtir, parce qu'avec 30 minutes, tu peux pas faire un focus sur 12 gars.
Mais on s'en ligne, l'idée de base, quand on a parlé de ça, Bert, c'était 1 heure.
Mm-hmm. C'est, si on a 1 heure, ça commence à être tight. Par contre, encore une fois, t'as besoin de 3 gars on top, à peu près, là, 3-4 vraiment. Là, qui, c'est, fait, après que t'as ces 3-4 gars-là, c'est sur eux autres que tu focuses tout. Puis avec le montage de l'émission, etc., il y a moyen de cacher beaucoup de choses, il y a moyen de pratiquer beaucoup de choses également. C'est encore une fois, là, tu sais, si on parle juste de faire un show de lutte, là, et non pas de partir en tournée avec ces gars-là, puis d'attirer partout où on va avec, là. C'est du moins dans les premiers temps de l'émission. Là. Si on parle de faire une émission sur 6 mois, exemple, je pense que c'est faisable. Mais il y a beaucoup de travail.
Mais c'est quoi? Élabore aussi.
On peut facilement trouver 10 gars qui pourraient être présentables et faire le boulot là, dans le moment qu'on en aurait besoin.
C'est quoi ta liste de 10?
Ouais, le demain. Ben là, votre liste était bonne, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Là, Handsome GF, puis oui, je pense qu'ils sont présentables à la télé, puis ils feront pas honte. Il y a des gars, je veux dire, comme Tank, exemple, qui est un gros bonhomme, qui pourrait être facilement convaincu, j'imagine, de participer à une émission comme ça.
C'est vrai ce que tu dis là, Bertrand. J'ai vu Tank lutter en fin de semaine dernière aux 25 ans de la NCW, et je me suis dit, crime, c'est parce que là, il est en semi-sabbatique, on le voit de moins en moins, mais comme gros gars crédible à la télévision, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait bien marcher, justement parce que il représente bien le type de lutteur, le type de gabarit que les diffuseurs et que les spectateurs recherchent peut-être un peu plus là, à la télévision, là, étant donné qu'ils sont habitués de voir les monstres de la WWE ou même les anciens lutteurs dans les années 70 ou 80.
Bertrand, je suis sûr et certain que tu as lu ce que Paul Leduc nous a écrit sur notre page aujourd'hui. Il a écrit trois points intéressants.
Ah, il y en a un qui est super là-dedans, ce cas.
Eh ben, je vais les lire. Le premier, c'est rétablir une commission athlétique pour faire le ménage dans les fédérations. Ça a beaucoup mieux de s'accuser mutuellement. L'année 2012, mondialement, présentement, nous faisons face à un changement de génération sur la planète. Pourquoi ne pas profiter de ce changement pour rétablir le kayfabe? À 50%, ça serait profitable parce que le doute chez les femmes donnerait une crédibilité au storyline. Quand t'as un doute, tu te déplaces, tout le monde est curieux et voyeur. Puis le troisième, où est rendue la liste sur il n'y a pas 10 lutteurs d'après pour la TV au Québec?
Ben, je pense que la commission athlétique, c'est bon, c'est beau sur papier, là, mais la réalité, c'est que la majorité des commissions athlétiques encore en existence aujourd'hui sont là principalement pour ramasser un pourcentage de ta porte.
C'est une taxe.
Pour vraiment protéger le sport ou la business. Là. Fait que ça prendrait un système assez incroyable pour que ça soit fonctionnel, rentable et vraiment aidant. Puis de toute façon, à moins d'en faire une loi, il n'y a pas... Tu sais, je vois pas comment que les fédérations d'eux-mêmes se rapporteraient à une commission athlétique. Là. Je pense pas que c'est vraiment la solution. Là. C'est comme de la petite lutte, comme on appelle, Pat le confirmera, il y en a toujours eu. Là, c'est-à-dire, il y a toujours eu un espèce de gros office, puis il y a toujours eu des satellites autour de gens qui faisaient de la lutte à différents degrés de qualité. Là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est pire encore hein, jusqu'à un certain point parce que n'importe qui peut être sur YouTube. Là, donc, tout le monde est visible, tout le monde est là. Donc, c'est sûr que le bon peut avoir autant de visibilité que le mauvais, là, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les autres époques. C'est le plus tu auras un gros office qui prend toute la place ou une grosse fédération qui prend toute la place médiatique, si on veut, plus que les autres vont prendre moins de place, puis c'est comme ça que tu renforces ton produit central.
Ce qui est drôle aussi, puis Bertrand, on l'a fait nos recherches, on l'a vu, c'est à différents moments dans l'histoire de la lutte au Québec, la commission athlétique a tantôt été quelque chose que les gens voulaient. Voulait garder ou même voulait encore qu'elle ait plus de place. Mm-hmm. Et à d'autres moments, on la trouvait trop restreignante. Mm-hmm. Donc là, on est dans une époque où, bon, la commission athlétique n'est plus du tout là. Et parce qu'il y a plusieurs promotions, il y a trop de promotions de lutte, ben on voit ça comme, bon, ben la commission athlétique pourrait permettre de régulariser tout ça. Sauf que la commission athlétique vient avec des règlements qui découle d'une loi et qui ne s'adapte pas nécessairement à la lutte. Là, moi, justement, Paul Leduc m'a remis un document qui était lorsque la Régie des sports du Québec est embarquée. C'était plus la Commission athlétique de Montréal. C'était vraiment une régie pour tout le Québec. Et le document démontre tous les règlements qu'elle voulait apporter à la lutte. Et écoute, c'était rendre un spectacle en sport pur, mais vraiment trop pur, là. Et historiquement aussi, les commissaires n'ont pas toujours été impliqués dans les histoires et tout ça. C'est pas toujours l'idéal.
Moi, j'étais à la WWF au Forum les années 86, 87, 88, 89, et il y avait cette régie-là, et c'était de voir Pat Patterson se pogner avec les gars. C'était incroyable. C'était un show, juste ça.
Mais qu'est-ce qu'il faisait au juste?
C'est parce qu'il disait ça, tu peux pas faire ça, ça, tu peux pas faire ça. Puis on était les seuls, là. Tu sais, écoute, la WWF, elle faisait ce qu'elle voulait. Et puis, là, les gars, ils amenaient les gars dans une chambre. Je sais pas. Ah, écoute, c'était... Je me souviens pas en détail, mais je sais qu'il brimait le show, un peu ce que Pat a dit. Il te mettait
des bâtons dans les roues.
Des barrières, tu sais. Et écoute, puis Pat, il venait fou furieux. C'était
un autre bon souvenir. Ah.
La régie est arrivée. Il y avait plus de lutte au Québec, là. Lutte internationale est morte, puis la régie était tellement forte puis demandait tellement de choses qu'il n'y en avait pas de lutte jusqu'au début des années 90, quand la régie ne s'occupait plus de la lutte, là. Jusqu'à ce moment-là, c'était pratiquement impossible, à part quelques shows là, outlaw, là, comme on pourrait dire. Là. Il n'y en avait pratiquement pas, sauf les shows de la WWF, parce que les règlements étaient tellement compliqués et coûteux que c'était impossible de produire de la lutte.
Deuxième point, excuse-moi Bertrand, deuxième point, étant donné que tu as fait partie de l'édition de la 25e NCW, est-ce que ça t'a donné la piqûre de retourner dans le ring, étant donné que là, on parle de kayfabe, et puis j'ai entendu dire qu'il y avait eu une conspiration contre le champion québécois, qui va venir dénoncer ça, d'ailleurs, dans un instant.
Ah oui.
Je veux savoir, c'était quoi l'ambiance? Je voyais vos statuts, l'ancienne gang, c'était le fun. Qu'est-ce que l'ancienne gang et la nouvelle gang?
Ah, ben écoutez, la NCW, ça a la particularité, justement, là, d'avoir 25 ans, donc en décembre 86, dans une école secondaire de Joliette, il y a une gang de chums qui ont parti de la lutte et c'est devenu ce qui est la NCW aujourd'hui en 25 ans d'évolution. Et au fil du temps, ce qu'il y a d'incroyable dans un sens pour une gang de lutte, c'est-à-dire que c'est pas toujours la même personne qui est en charge. Au fil du temps, il y a des nouvelles générations, des nouveaux groupes qui ont repris le flambeau d'une génération à l'autre pour diriger la compagnie, l'amener dans d'autres directions. Donc, c'est toujours le fun quand on se réunit. Moi, j'ai trouvé ça super parce que je voyais des jeunes que j'ai eus comme recrues qui étaient en charge de la NCW aujourd'hui, être pognés avec les mêmes problèmes que j'ai eus, vivre les mêmes situations que moi j'ai vues. Puis, j'ai eu comme l'impression qu'ils vont passer au travers comme on a passé au travers aussi, puis que dans 5 ans, on va sûrement se revoir pour un 30e anniversaire. Donc, moi, ça me fait plaisir que ça continue, tu sais, que j'ai eu un mot à faire là-dedans, puis c'est toujours là, puis que c'est respecté puis considéré par des amateurs qui viennent l'avoir. Donc, récemment, on parle de souvenirs, là, j'ai vu sur Facebook, sur le site de l'ANC, quelqu'un qui disait qu'il se souvenait du turn, mon turn, ou de ma gang, de la mafia du Booker, que ça avait été incroyable, qu'il en pleurait, puis que c'est le meilleur turn qu'il a vu de sa vie, là. Mm-hmm. Même si c'est une personne que t'as impressionné comme ça pour la lutte, qui est un amateur de lutte à vie à partir de ça, juste ça, là, je veux dire, c'est merveilleux. J'ai eu le même impact sur quelqu'un qui était un amateur de lutte que mes idoles ont eu sur moi à une autre époque. Je veux dire, il n'y a pas de meilleur feeling que ça. Fait que là, voir ma gang de jeunes qui m'en ont fait tuer par bout certains, être à ma place, c'est très drôle. T'sais. Je veux dire, Anthony, le booker de la NCW, on s'est souvent cogné la tête quand il était une recrue, puis on s'est pogné aux cheveux souvent. Puis là, c'est lui qui est le booker, puis...
Il n'y en a plus de cheveux, là.
Je trouve ça très drôle, et il me regarde, puis il rit jaune un peu, parce qu'il m'a dit « Boss, t'avais raison, là. »
En 25 ans, la NCW, à mon avis, a réussi à former les deux meilleures têtes de lutte que moi j'ai connues, et je crois qu'écoute, depuis l'ère Indie, là, et c'est justement toi, Bertrand, et Patrick Leneau qui a été un peu ton élève quand il est arrivé à la NCW, qui s'est peut-être, il a pris l'expérience quand il est sorti de la NC, mais encore aujourd'hui, il le considère comme son mentor. Et si demain matin, j'avais un show de lutte, j'avais une émission de télévision, puis c'est moi qui décide qui est scripteur, qui décide de tout ce qui est lutte dans ma promotion, j'hésiterais même pas 2 secondes, puis c'est Patrick puis Bertrand que j'appellerais.
Écoute, Bertrand, c'est déjà tout le temps qu'on a, mais t'es toujours...
Plaisir.
Ben écoute, pas autant qu'à moi. T'es toujours le bienvenu, soit dit en passant, pour participer à l'émission.
Là, il est 22h14. Il est quelle heure à Boisnois?
22h14.
Ah, cool.
Est-ce que Tim Martin est fermé?
Tu sais que moi, Bertrand, je restais à Saint-Timothée.
Oui.
Tu savais ça?
Valleyfield, ça n'existe plus, Saint-Timothée. Hein.
Ouais, mais dans ce temps-là, c'était hot. Tu sais, je courais avec mon équipe de baseball avec la toune de Rocky, puis ils me suivaient toutes.
Imagine Marc Tabé dans une ville qui existe même plus, au moins Beauharnois, ça l'existe encore.
Oui, il y a ça. Ils ont parti régate en plus.
Ben moi, les gars, je vous bats tout.
Les gars, t'as beau en moi, c'est
ouais.
Moi, je vous bats tout parce que je viens de Chibougamau, qui est un terme légendaire. Lorsqu'on dit « je m'en vais à l'autre bout du monde », genre à Saint-Jérôme, je m'en vais à Chibougamau.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Chibougamau, c'est de l'indien qui veut dire « bon, c'est par où Montréal? »
Non, du tout. Mais t'as raison sur un point, c'est vrai que c'est de l'indien, ça veut dire « lieu de rendez-vous ».
Oh!
Merci beaucoup, Bertrand.
Ben, ça me fait plaisir.
Ciao, mon Bert.
Continue à nous parler via la page.
C'est bon.
Ciao. Bye. Hey, quand même, pratiquement, presque une demi-heure avec Bertrand sur les ondes. Vas-y, Pat qui tweet depuis tantôt.
Ah, non, je Facebook, mais je veux pas se couper, Patricia, mais c'est parce que c'est pas sur la page comme telle du Théo W. Show, mais on a ici Vanessa qui écrit « Très drôle moment de 2 minutes et quart. J'étais en train de couper le gâteau de fête à mon papy et j'entends parler de lutte à la radio. Je me dis, hein, depuis quand ça parle de lutte à la radio, c'est donc ben nice. Pour au bout de 2 minutes, je me mets à écouter vraiment ce qu'ils disent et de reconnaître les voix de Patrice et Pat Laprade. Ha, ha, ha. Alors, on te salue, Vanessa Guilbeault, qui est une fidèle auditrice et fidèle fanatique de lutte professionnelle.
Elle a reconnu vos voix, vous autres.
Bravo. Vanessa Guilbeault.
Bravo. Ouais. B-I-N-G-O, bravo.
Ben écoute, je suis tellement curieux de savoir c'est qui. Je pense que je vais prendre une pause publicitaire. on fait l'édition souvenir de TOW Radio Show sur le 1570 AM, également le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show en compagnie de Patrice Valtay et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Hello, this is Earl Hebner. You damn right I did. I'm the best there is, the best I was, and the best there ever be. And you listen to the TOW Radio Show.
And it's me, you guessed correctly. I just say what a stallion. You swear I wasn't equestrian. I'm a hitter with that pipe. Call that Nancy Kerrigan. Stay on the greenest greens. Call us vegetarians. You be on that minor league, but we smoke professionally. I do my job exceptionally. On point like a decimalist. The way I ride on a beat, man.
On a en primeur la chanson thème de Lucky Sabatier qui effectuera un retour en 2012. Donc vous avez un scoop au TOW Radio Show. Patricia, qu'est-ce qui se passe?
Sur la page
du côté interactif de l'émission. Ouais.
On a François, c'est marqué François nationaliste, donc okay. François le nationaliste. Lui, son plus beau souvenir, ça va te rappeler des souvenirs, Marc. Il parle de. Il avait gagné 4 places au Nitro Party.
Ah!
Wow. Puis à la fin des années 90.
Au Champs.
Là, il marque avec une lettre pas très gentille sur Blondin. Et du haut de mes 15 ans, j'étais très impressionnée que Marc vienne me porter la lettre officielle avec le logo de la WCW. C'était très gentil. Merci, Marc. J'ai encore le gaminet de la NWO que tu peux donner.
Ah, mais Seigneur.
Un gaminet? C'est quoi ça?
Un t-shirt.
Un gaminet?
Ouais. Non, c'est ça. On recevait beaucoup dans ce temps-là, beaucoup de courriels, puis... J'étais arrivé pour une couple de personnes qui me blastaient, ou tu sais, puis j'ai dit, on va les inviter eux autres. Et puis, ça a fait que c'était le fun, tu sais. Parce que c'est le fun, des fois, avoir des gens
c'est pas juste, ça te permet d'avoir des discussions puis de comprendre des points de vue différents, tu sais.
T'as déjà vu des packs?
J'ai failli amener les t-shirts, justement, les gaminets des Nitro Party ou des PCO Party, mais je me suis dit, Pat, il voulait vraiment la WWF.
Ah,
mais celui,
hey.
Mais c'est vrai, t'as écrit WWF.
Ouais, mais t'aurais pu dire, Pat, je vais t'apporter aussi ça.
Mais c'est toi le boss de l'émission.
Je sais. J'ai vu que t'as des photos avec d'autres personnalités. On va y revenir. Continue, mais.
Le Nitro Party, écoute, on avait reçu, c'était le fun, Sharon Sidello, qui s'occupait de nous autres, et puis ils avaient envoyé, tu sais, des t-shirts, des verres, des verres, des tasses, des nappes, tu sais, tout ce que ça prenait pour faire un party. Puis on avait eu, là, tu vas m'aider, là, c'est un Montréalais, là, j'ai un blanc de mémoire, il luttait...
Ben, c'est Chris, Chris Benoit était là.
Ouais, ça, c'était à Québec, ça. Okay. Mais le celui qu'on a eu à Saint-Eustache, Vampiro.
Oh, Vampiro. C'est pas un Montréalais. C'est un gars de l'Ontario. Il vient de Thunder Bay.
Mais il est resté à Montréal.
Oui, il a été entraîné ici par Abdullah the Butcher puis Louis Lawrence en 86-87.
Okay. Il est déjà resté ici, Abdullah the Butcher, ou quoi?
Abdullah. Non, là, on parle de Vampiro. Mais Abdullah, est-ce qu'il est resté ici?
Non, parce
ici,
que tu dis qu'il a été entraîné ici par Abdullah.
Ouais. Ben oui, mais Abdullah, il luttait assez souvent, régulièrement ici, que le bout qu'il faisait régulièrement ici, il devait avoir une place à quelque part. Là, j'étais pas dans l'entourage d'Abdullah à ce moment-là, okay. Mais c'est je suis persuadé qu'il devait avoir une place à lui. Mais
ce qu'il faisait chez vous?
Ce qu'il faisait Vampiro, c'est à ce moment-là, Yann Hodgkinson, qui s'appelait, et qui s'appelle encore, oui, comme ça, oui. et c'est ça, puis il venait dans les après-midi, là, quand lutte internationale roulait encore, puis c'était ça, Abdullah avec Louis Lawrence, qui l'ont entraîné, c'est devenu une des plus grosses vedettes du Mexique, par la suite.
Marc, t'as des photos avec des personnalités de la WWF. On a un petit concours, justement, qui va se passer là.
Hey,
là.
Oui, c'est vrai.
On a des DVD à donner. Notre gagnant la semaine passée n'est pas venu réclamer son prix de Twilight, donc gracieuseté du cinéma de Saint-Jérôme. On offre un laissez-passer double pour le film Twilight. Grouillez-vous avant qu'il s'est retiré des écrans. On a également... Qu'est-ce qu'on a, Patricia, au juste?
On a des DVD de TNA, dont un de TNA au Japon.
Ça j'ai une
Impact.
Question pour quelqu'un qui veut gagner. Vous allez direct sur la page Facebook. J'ai une photo ici avec Powers of Pain, The Warlord et Barbarian, où j'ai une promotion que j'ai faite pour Pepsi. Je faisais plusieurs promotions pour eux autres. Et la question qu'on se posait tantôt, qui était leur gérant? Alors, si vous écrivez sur la page Facebook... Vous pourriez gagner ce DVD à Global Impact Japan.
On a également quoi comme autre DVD, Patricia?
On a Final Resolution, qui est de 2007.
OK, et puis l'autre? Okay.
Après ça, Victory Road de 2009.
Ça ressemble plus à
un DVD de
bikini, ouais.
Mais non, c'est un pay-per-view.
OK. C'est toujours tout à vendeur, hein? Trois filles en bikini, pas de lutteur, c'est un DVD.
J'ai-tu compté l'affaire de Jim Duggan avec Pepsi?
Ouais, mais hors d'onde.
OK, OK.
Vas-y, on t'écoute.
Je me semblais que j'en avais parlé. Je faisais des promos pour Pepsi. Pepsi venait livrer des caisses de liqueur au forum dans les chambres des gars, tu sais, avant les shows. Et Warlord et puis Barbarian, ça avait été vraiment imposant. Mais... Jake the Snake Roberts avec Jim Duggan, et que Jim Duggan ait détruit une machine de coke, une machine distributrice devant les gars de Pepsi, ça valait.
Elle avait pas ordonné son Pepsi comme dans Slapshot un peu ou.
Écoute, le gars de Jim, qui s'appelait le patron de Pepsi, il avait acheté une machine, tu sais, plusieurs milliers de dollars. Puis, avec le 2x4, il avait dit à Jim, amuse-toi. Les gars, les vendeurs de Pepsi, ça criait, là, tu sais.
Je pense que Bertrand, il a ça sur vidéo, à quelque part, il va nous mettre ça sur la page.
C'était la motivation 101. Bon, qu'est-ce que vous avez, toi et deux, là?
OK, ben là, moi, j'ai...
J'aurais une question, moi aussi, Patrice, pour un auditeur, s'il veut gagner un DVD. Okay. Vas-y,
mais avant, parce que là, on a eu des réponses pour la question à Marc tantôt. Donc, la réponse, c'est Mr. Fuji.
Oui.
Et on a trois. On a eu trois bonnes réponses. Donc,
à combien de minutes d'intervalle?
J'avoue que c'est assez... Le premier, c'est Georges Morillaz.
OK. Parce que moi, j'ai pas de trouble à en donner trois, là.
Ouais, c'est ça qu'on va faire. Je pense qu'on va en donner.
Comment ça, c'est ça qu'on va faire? C'est moi qui viens de décider de le faire.
C'est Pat, l'animateur.
Ah oui? C'est lui qui donne les DVD? Ça vient de chez eux?
Non, c'est toi qui les as donnés, évidemment. Ben, tu sais, là.
Tu sais, c'est embêtant de voir c'est qui vraiment le premier, parce que c'est à quelques secondes.
Ah. Okay. C'est qui, ça, vous pensez? La
bande est découragée. On est en plein.
Ouais, mais c'est son habitude, hein. C'est qui, Hanson?
Sacripant, je suis pas de bonne humeur.
Qu'est-ce qui se passe?
Mais là, je me suis fait avoir samedi, je sais pas si vous êtes au courant.
Non, mais là, est-ce que tu savais pas que Patricia parlait?
Qui c'est qui parle?
Non, mais vos histoires de Pepsi, puis Marc, on s'entend que t'en as peut-être trop bu, là. Ça m'intéresse pas, vos histoires de Pepsi, là.
Excuse-moi, mon brave, est-ce que tu pourrais t'identifier, s'il te plaît?
Voyons donc. Vous voulez que je m'identifie? Tout le monde le sait, c'est qui? C'est Hanson GF, voyons donc.
Ah! Tu pensais que c'était Gorgeous Mike?
Le gars, il a perdu son titre de la NCW samedi dernier, c'est ça?
T'es plus champion?
Sacripant!
Qu'est-ce qui s'est passé, Hanson?
Mais là, j'affrontais Frank, garde ta blouse,
Pas ta blouse, ta chemise.
L'arbitre spécial, c'était Bertrand Hébert, puis Dieu sait qu'il y a une bonne paire de lentilles, mais il n'a rien vu du match.
Qu'est-ce qui s'est passé, Hanson? T'as perdu?
J'ai dominé le combat, puis tout le match, Bertrand Hébert prenait son temps pour compter, puis je sais pas s'il est en train de faire une traduction de son fameux livre encore, il avait la tête ailleurs. Puis quand c'est arrivé à la fin, Frank Blues m'a fait un petit paquet sournois. Pourtant, c'est moi le grand blond sournois. M'a fait un petit paquet sournois. A tiré ma culotte. Puis Bertrand Hébert s'est mis à compter rapidement.
Oh, conspiration. Un screwjob à la NCW?
Effectivement, le Montreal screwjob, là, c'est plus Bret Hart avec Earl Hebner. C'est Hanson GF qui est une victime.
Mais j'en reviens pas. Tu t'es fait battre par le petit paquet?
Ouais, puis je savais pas ce qui m'est arrivé après. Char au Mumba, obligé de faire le line-up. Puis Grey Goose pour Hanson GF. Puis de ses filles, juste des 5 puis des 6. Des petites grosses.
T'es pas sérieux.
Séance depuis samedi.
Ah.
Oh, ya ya. Et puis là,
les jumeaux sont partis avec la mère?
Plus de jumeaux, plus de ses filles, plus rien. Je suis le bord de la dépression.
Tout
là.
Seul avec ton t-shirt de loup, c'est ça?
Exactement. Puis je suis dans le coin, dans une pièce, puis je tremblote, puis je pleure.
Pauvre toi. Alors, tu sais que c'est important que t'en parles, hein?
Ouais,
c'est vraiment important que t'en parles. Garde pas ça pour toi.
Avec votre grande crédibilité, vous êtes comme des psychologues pour moi.
Eh, veux-tu ça dépresse encore plus, GF? Jacques Rougeau parle même pas de toi dans son livre.
Non!
Aucune mention.
Voyons donc.
C'est pas ta semaine, Hanson.
Non, c'est pas ma semaine,
tu
mais...
Tu l'as perdu, je pense.
Mon dernier mot.
Vas-y, on t'écoute. Ton dernier mot, c'est quoi?
Mais là, c'est pas... C'est mon mot, là. Elle, le loup-garou, là, t'es rendu un acteur. Que...
L'expérience, mon GF, qui rentre en ligne de compte, selon Bertrand Hébert. Donc là, tu vas demander un rematch?
Oui, j'ai demandé déjà mon match revanche qui va se faire à Season Premier le 14 janvier. Ça va être une danse à trois. Habituellement, le GF est très bon lorsque ça se passe à trois. Donc, contre Pat Guénette et Frank Blues, qui est temporairement le nouveau champion.
Mais tu vas passer des fêtes assez plates.
Ouais, je pensais bien que la ceinture reviendrait à Terrebonne, puis comme on dit, je suis pas de Terrebonne humeur.
Oh, pas de Terrebonne humeur.
Oh, il est temps, ça arrête là sur un high spot.
Il y a vraiment un trou en dessous de mon foyer là.
Écoute, juste, je sais pas si on va te mettre une bombe sur ta plaie, mais Poteau dans sa chambre, il y a pas juste un chandail de loup, il y a la doudou. De loup.
Ben là, venant de Poteau, je m'attendais à rien de moins.
OK, Hanson. On comprend ta peine, on comprend ta rage. Ben, je sais pas si je suis désolé, mais enfin, quelqu'un t'a mis à ta place. Tu vois que même, ben, je sais pas si tu as triché, j'ai pas vu le match.
Non, je pense. Oui, j'étais présent. Je pense que JF était trop occupé en train de se faire donner une rince par Frank Blues. Il a peut-être pas vu le même combat que moi.
David Lemieux, hein. David Lemieux.
Le combat.
T'as sous-estimé ton adversaire.
Le combat s'est déroulé dans les règles de l'art. Frank Blues a gagné la victoire fair and square 1-2-3 dans le milieu du ring et GF aura sa revanche au mois de janvier, mais samedi dernier c'était Frank Blues le meilleur homme.
Là vous allez croire qui là? Le Coyote Patrick Laprade ou Hanson GF?
Moi je vais avec Pat Laprade.
Ho ho!
Marc-Nolin, Pat Laprade.
Écoute, je me souviens de TOW8.25. À cause de toi, je me suis fait raser le coco. J'ai trois filles qui m'ont laissé en dedans de deux jours. Fait que, garde, oublie ça.
Marc, c'est pas à cause que j'ai mis les photos des nains, de tes nains de jardin sur Facebook. Il faut que tu m'en veuilles, là.
Il y a ça.
Écoute, Anson, on te remercie, mais nous, on a un show à rouler, donc ta peine est lancée, on t'aura sur podcast également, donc on te laisse en te dédiant la prochaine pièce musicale.
Et oublie pas d'en jaser, c'est important, garde pas ça pour toi.
Ouais, il faut que les belles valeurs, ça revienne, là, parce que là, ça va mal.
Ok, salut Anson.
Ok, on se voit au Pink Paradise.
Bye bye.
Bye.
C'est pour toi, ça, cette chanson-là, en passant, hein?
C'est quoi?
Ton prochain adversaire. Ça te dit rien?
Non. Ah oh, non!
L'inoxydable!
Ben voyons donc!
Pat Guénette!
Là, mais... ton show vient de mourir, Pat!
C'est peut-être lui qui va sortir avec la ceinture au mois de janvier, JF.
Alors, comme faire le loup-garou avec le coyote!
Salut, JF!
Bye, les boys!
Bye! Donc, voilà pour Ransom JF qui dénonce une conspiration. Il a perdu sa ceinture. J'en étais bouche bée quand j'ai appris ça aujourd'hui. En état de choc.
J'allais dire, Patrice, avant qu'on se soit fait interrompre de cette façon-là par JF, que j'avais une question, moi aussi, pour les fans qui nous écoutent pour gagner un DVD. Sting! Ben oui, absolument, je shuffle tous les jours. Sting est présentement une des grandes vedettes de la TNA depuis plusieurs années. Et avant qu'il ait vraiment une carrière à la WCW, à la NWA, même avant ça, il faisait équipe dans une équipe qui s'appelait Power Team USA. Le lutteur avec qui il faisait équipe est devenu une grande vedette, une grosse vedette à la WWF. J'aimerais connaître le nom que ce gaillard avait à la WWF. Alors, un DVD à la première personne qui va nous donner la bonne réponse, le DVD de TNA Victory Road 2009.
C'est des DVD qui n'ont jamais été ouverts, hein?
Non, ils sont encore emballés. T'es sûr que tu les as pas copiés avant, tu les as remballés?
Sûr.
Ils n'ont pas été cotés au Canada, en tout cas. Victory Road 2009. Mais je te jure, on dirait vraiment Michel Mécaud en avant de la pochette. C'est qui, eux autres, les Knockouts?
Ça, c'est Angelina Love.
Oui.
C'est Velvet Sky.
OK.
Puis c'est Madison Rain. Tu connais ta lutte, ref?
Je connais pas TNA.
Et pendant que vous regardez le DVD, il y a Bertrand Hébert qui nous met sur un lien YouTube qui dit Jean-René Dufort, alias la punaise masquée, défie Pierre-Carl Ouellet. Alors, c'est sur YouTube, sur le page Facebook du TOW Radio Show. Alors, si vous voulez maintenant voir ce dont Marc et Patrice parlaient tantôt.
Patricia a les réponses, déjà?
Ouais, on a Pascal Charlin qui nous répond. Pat, Ultimate Warrior.
Oh, et on a un big, big, big winner ici.
Ah oui, ça, je le savais pas.
Oui, Jim O'Wig qui faisait équipe avec Sting à ce moment-là, Power Team USA, des fédérations, un des territoires.
J'aimerais ça avoir une photo de ça.
Oh, il y en a, ça se trouve, je crois, relativement facilement.
Tu es capable d'en trouver une et mettre sa page TOW Radio Show?
J'ai tous les bons disques.
Oui, c'est assez faisable de trouver. Oui, je vais trouver ça.
Ben sur le DVD de Ultimate Warrior, il en parle justement, en commençant.
Oui,
hein,
t'as raison. T'as tout à fait raison.
Le territoire à Jerry Lawler, je pense.
Puis, aussi les Blade Runners à Memphis pour...
Ben, c'est ça qu'on vient de dire. Ah, ça, oui. t'as pas d'écouteur, t'entends pas. Patricia, t'as apporté des souvenirs également.
Ouais.
Un morceau de table.
Il y a un morceau de table.
Tu vas prendre des photos, Marc.
Un morceau de table.
À quoi ça vous fait penser?
Une pyramide.
Non.
Ça
dans
ressemble.
Lutte, non?
Dans les Dudley Boys.
Les Dudley Boys.
Ah, ben oui.
Mais qu'est-ce que c'est? Monte-la encore.
Ah, je sais d'où ça vient, ça, de bord.
T'étais là, hein?
J'étais là, certain.
OK. Pat, en regardant ici. Photo live radio.
En dire, mais prêt dans mon sauteur. Ben oui, c'est vrai.
Ah, ouais. Puis, c'est la IWS en 2007, quand les Dudley Boys étaient venus... pour la première fois, je pense, à Montréal.
Puis moi, c'est la première. Morceau de table.
Ah, ça, là, ça a été...
Pourquoi tu l'as pas fait signer?
C'est ce que je me suis dit après, là, mais sérieux, j'étais dans tous mes états, là. Je tripais, là, sur les Dudley Boys.
Puis, mais là, il n'y a pas de bibitte là-dedans, là.
Mais ça, en tout cas, t'as peu. Je vais vous compter.
Elle est propre.
Elle est propre.
OK. C'est ça, c'est en 2007. Puis là, après leur match, là, Bob Arie demande aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un anyone want a piece of that table? Puis là, tout le monde criait, ouais, ouais, ouais. Puis là, moi, je regardais Bob Horry puis Devon, puis je me disais, crème, il y a personne là, qui en voudrait plus que moi, là. Mais c'est juste le fait d'être proche d'eux autres. Fait que là, il me dit, you, get in the ring. Fait que, OK, là, je rentre dans le ring. Puis j'étais gênée, là. Puis là, Bob Horry me dit, en tout cas, il me demande mon nom. Puis là, il dit, you want a piece of that table? J'ai dit, yeah. Puis il dit, take off your shirt. Là, j'étais, oh non, je le ferai pas, là. Je le ferai pas. Puis là, toute la foule, là, ça se met à crier, take it off, take it off. Puis mon chum, à l'époque, là, je le regarde comme. Puis là, lui aussi, il criait, là, take it off. Là, je me disais, non, je le ferai pas.
Je pense que je criais, moi aussi.
Tout le monde criait, là. Puis je me disais, je le ferai pas.
On l'essaye
sur les gars. M'humilier. Je vais revenir, je vais retourner à ma place, puis j'aurai pas la table, puis je vais m'en vouloir toute ma vie. Puis là, Bob Horry, il avait dit, just kidding.
Fait que, oh, je
Non, je l'ai pas fait. Puis je l'aurais pas fait.
Il est pas mal moins cool non. Qu'est-ce que je m'attendais. Ouais. On laissait-tu les gars? Fake it up! Fake it up!
D'un fille pas game, là.
Non, mais je veux juste vous dire, fait que ça. Puis après, il y avait un match de Fans Bring the Weapons. Puis moi, j'avais tellement trippé, là, d'avoir vu Bob Horry puis Devon dans le ring que j'ai même pas regardé le match, là. J'étais, hein, j'étais wow. OK?
Puis là,
j'avais trippé.
J'étais wow.
Fait que là, OK, là, on dit 4 ans après, j'ai participé à la tournée TNA. Puis j'ai rencontré Baba. Je sais pas si t'étais là, Marc, quand j'ai compté.
T'étais-tu là à la tournée? Non.
Ben oui.
T'étais là, mais pas là.
J'ai rencontré Baba. Puis là, j'ai parlé justement de cet événement-là. Puis que, tu sais, qu'à ce moment-là, c'était vraiment une des plus beaux événements de ma vie, là. Puis que, pis là, Baba, il était quand même content d'apprendre
mais
ça.
Est-ce qu'il se rappelait de toi?
Ben, il serait pas de moi, mais il se rappelait que, ouais, OK, tu sais, à Montréal, qu'il avait fait venir, tu sais, quelqu'un dans le ring, mais probablement qu'il fait ça.
Il y avait Sylvain aussi qui était là, ce show-là,
ouais,
à la AWS.
Ouais. Mais tout ça pour dire, tu sais, j'avais dit à Baba que, tu sais, des fois, ils savent pas, eux autres, ils voient des fans, puis tu sais, ceux qui sont vraiment fans de lutte, là. Ça prend juste une petite attention, puis ça change. Ben, je veux pas dire que ça a changé ma vie, là, mais ça a été un événement marquant dans ma vie. Là.
Quand j'ai participé à No Way Out, à la fin du gala, lorsque le pay-per-view s'est terminé, Hulk Hogan, il s'en retournait en arrière, il y avait un gars à côté de moi avec sa blonde, il y avait un gars de sécurité à terre, mais quand le gars de sécurité il regardait pas, il s'est mis à courir pour aller taper dans la main à Hulk Hogan. Puis moi, quand j'ai vu ça, je suis parti à courir aussi. Puis on entendait que là, hey, hey, nous incite. Moi, je me rappelle, la main à Hulk Hogan est là. Puis j'ai vraiment passé, là, écoute, un cheveu du toucher à la main.
Puis un cheveu pour toi, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Ça vaut beaucoup.
Pourquoi t'as pas frappé dans sa main au lieu de frapper à côté?
Ben, c'est parce que je suis arrivé. Puis je l'ai manqué.
C'est les 15 heures de route de Shibugamo.
Là, je me souviens de toi quand tu frappais dans le beurre à la game de balle. OK!
Ben oui, je me suis fait strike et out à la balle donnée.
T'as jamais payé ta punition?
Ben oui, hey, j'ai donné 20$. Parce que je me suis fait striker 2 fois.
Dis-le pas.
Ben je le dis, écoute, moi je suis un gars honnête. Honnête, très honnête. Souvenir qu'on vous demande. Vas-y,
ouais,
on t'écoute.
J'en ai un autre que je voulais vous lire. Simon Lefranc. Il dit que son
plus.
Lui,
c'est pas un menteur.
Non. Son plus. Ouais. Son
ben,
plus
il en a parlé tantôt
en
début d'émission à TOW5, là.
Simon ouais. Lefranc.
Tu l'as compté tantôt, Patricia. Puis il y a une photo avec sa mère ou sa grand-mère,
ouais,
je sais
ouais,
pas
ouais,
trop.
Il y a une photo avec sa grand-mère, mais attends un peu, c'est encore lui. Il y a eu le. J'essaie juste de le trouver, là. C'est lui qui avait le drapeau, en tout cas, de Jim Duggan.
La TOW6?
TOW6. Ouais. Mon souvenir de lutte matérielle, le drapeau du Québec que Duggan avait à TOW6. C'est moi qui l'ai. Ah. C'est Simon Lefranc. J'avais échangé mon drapeau du Québec contre celui-là. Il y a encore la poudre de GF dessus puis du sang. Mais tu sais, c'est des souvenirs que ça reste là, pour
c'est
les
vrai.
Amateurs de
l'air.
Ben oui, c'est comme Patricia a dit, un petit quelque chose fait en sorte qu'on va se rappeler toute notre vie.
Ouais.
Toute notre vie. On parle de souvenirs aujourd'hui au TOW Radio Show. Il reste un bloc. Tu veux aller te moucher, Marc?
Non, ça donne rien.
Marc, il bat.
Excuse-moi, Patrice. Pour toi, Marc, sur, évidemment, la page du TOW Radio Show, Bertrand Hébert qui a mis un vidéo YouTube des Blade Runners, Ultimate Warrior et Sting dans leur jeune âge. Alors, tu vas pouvoir aller visualiser ça, Marc.
Il n'y a pas ses lunettes, on peut pas y voir.
Il n'y a pas ses lunettes, mais quand tu trouveras tes lunettes, il a mis des photos aussi, je crois, là, des deux en équipe.
Bon, alors, j'ai juste hâte d'y retrouver mes lunettes, sont sur ma table de nuit à côté de mon lit.
Ah, de toute façon,
j'ai hâte d'être là. Seigneur, j'ai hâte.
T'as-tu pris un petit coup à soir, Marc?
Pas du tout.
On va faire notre
fatigué.
DA. pour faire notre BA, si jamais vous prenez un petit coup, bien l'opération Nez Rouge est là pour vous au 450-664-4314.
Voilà. Wow.
On s'arrête, on revient dans un instant. Vous écoutez le TOW Radio Show 1570 AM, également le 1570.ca.
Sur les ondes de CJLV 1570, c'est l'émission TOW Radio Show en compagnie de Patrice Valtet et Marc Blondin. Pour nous joindre, faites le 450-680-1570 et de l'extérieur sans frais, 1-866-895-3142.
Le Pink Paradise du 117 boulevard des Laurentides à Laval pour éveiller vos sens. Le bar érotique voté numéro 1 dans la grande région de Montréal vous accueille. Du lundi au vendredi dès midi et le week-end dès 20h. Vous serez comblé de l'ambiance, mais surtout par le charme des demoiselles du Pink Paradise. Jusqu'à 30 demoiselles pour vous chaque soir. Visitez-nous au www.pinkparadise.ca ou encore mieux, une visite au 117 boulevard des Laurentides à Laval et vous serez comblé. Le Pink Paradise, la paire qui vaut le détour.
Ici DJ Mike Charlebois. Je vous invite à ma soirée karaoké du dimanche soir à la brasserie 4040, coin Jean Talon et Pinneuf à Montréal. La soirée débute à 22h et à minuit, nous diffusons à la radio un concept unique en Amérique du Nord. Venez chanter à la radio karaoké tous les dimanches. Pour plus de détails, 514-926-7500.
Voici un message amusant. Le monde de Monsieur Fun est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'animation depuis 1984. Vous êtes à la recherche de services pour vos événements des fêtes de Noël? Que ce soit un DJ, un animateur, soirée thématique, fête d'enfants ou autre, le monde de Monsieur Fun saura vous servir. Il reste encore quelques disponibilités pour la période de Noël, mais faites vite. 1-800-66-LE-FUN, 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun au mfun.com.
1570 Laval et au 1570.ca.
Hey gang, this is Mickey James of TNA Impact Wrestling. Get all of the latest pro wrestling scoop by listening to TOW Radio every Tuesday night at 9 p.m. on 1570 AM.
C'est toi, ça, Pat, qui m'a donné ça, hein, cette chanson-là?
Je t'ai donné plusieurs chansons qui faisaient partie là, de l'anthologie de la WWE qu'elle avait sortie il y a quelques années.
C'est vrai. C'est un bon souvenir.
Oui, oui, ben écoute, The Excellence of Execution, Bret de Hitman Hart, qui justement, Jacques en parle dans son livre parce qu'il avait battu Bret pour le titre intercontinental et c'est un peu comique de la façon. Il en parle pas longtemps, comme son règne d'ailleurs, qui a pas duré longtemps, puis c'est justement un peu ça. Il dit que Pat Patterson, c'est Pat ou Vince qui lui avait dit « J'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle pour toi ». Il dit « La bonne, c'est que tu remportes le titre intercontinental. La mauvaise, c'est dans deux jours, tu la perds à Roddy Piper ». Donc, Jacques qui raconte ça dans l'un de ses chapitres de son livre.
C'était un bon personnage quand même de Monty. Je me rappelle très bien de son combat avec The Big Boss Man. C'était à SummerSlam, je pense.
Il y avait une grosse rivalité avec le Big Boss Man. Et le Monty que la GRC n'aimait vraiment pas. Et au Canada, il fallait que Jacques lutte sous son vrai nom, c'est-à-dire Jacques Rougeau. Il ne pouvait utiliser le Monty. C'est d'ailleurs pour ça qu'en équipe avec Pierre-Carl Ouellette, ils avaient décidé de s'appeler les Québécoises parce qu'une des idées, c'était de s'appeler de Monty's, tout simplement, mais ils n'ont pas voulu pousser leur luck, je pense.
Puis, on va revenir sur le livre dans un instant, vu qu'on parle de souvenirs. On n'a pas eu la chance d'avoir Classics On Demand, le poste interactif de la WWE. Mm-hmm. Ben, ça termine cette aventure-là le 1er janvier 2012. Ça a été annoncé aujourd'hui. On sait tous maintenant qu'on aura le WWE Network au début d'avril, qui coïncide avec justement WrestleMania 28. Je me fais obstiner en me disant non. Non, ça sera pas diffusé sur ce poste-là. Effectivement, oui, WrestleMania sera diffusé sur le WWE Network à ses débuts, donc c'est le 1er avril. Il y aura trois événements par année. des pay-per-views diffusés sur ce poste-là. Donc, en espérant que nous aurons droit à ça au Canada. Liliane Garcia qui a fait son retour officiel à SmackDown. Est-ce que tu as eu la chance d'écouter SmackDown vendredi dernier?
Non, j'ai malheureusement pas eu.
On dirait qu'on n'a pas le goût d'écouter SmackDown. Non?
J'ai été longtemps à l'écouter les jeudis soirs quand c'était dans le temps de Score et même bon avant ça. Et...
WSBK, ça prend
ouais,
ça.
Ouais, exactement. J'ai été longtemps, mais le vendredi soir, on dirait qu'on a tout quelque chose d'autre à faire. C'est pas un des meilleurs soirs, je te dirais, là, pour écouter de la télévision et malheureusement, ben, c'est le la case horaire qu'on donne à SmackDown.
Je parlais de SmackDown tantôt, les codes d'écoute étaient meilleurs la semaine dernière, possiblement avec l'apparition de Liliane Garcia. En fin de semaine, ça sera le TLC. Ça se passe dimanche. Je sais pas si on sera encore... Toi, t'écoutes ça où, toi, les pay-per-view, Pat?
J'écoute ça à la brasserie du métro, qui est au coin de Henri Bourassa et La Jeunesse, dans le nord de la ville. J'écoute ça là avec des amis depuis... je veux dire, 6, 7, 8 ans, là, dans ce coin-là. On est toujours une gang, et écoute, on est même connus là-bas, dans le sens qu'il y a une anecdote assez, assez particulière, et ça fait aussi partie des souvenirs que je vais avoir dans mes vieux jours. La toune de Edge, c'est-à-dire Edge, bon, vous connaissez la toune, là, voilà, ouais, là, bon.
Ben, alors, vas-y, chante-nous là.
Oh, ouais, oh boy, voilà, ouais, voilà, voilà, ouais, bon. Et évidemment, ils chantent la toune et on comprend pas vraiment les paroles et on a commencé, nous, à la brasserie, à tout simplement déconner et chanter ce que je chante là. Voilà, ouais, voilà, ouais, ouais. Mais 30 personnes avec quelques bières dans le corps qui chantent ça simultanément. C'est quelque chose, c'était rendu en dernier, après quelques années, c'était rendu qu'il y avait du monde qui était assis ailleurs dans la brasserie, qui se déplaçait et qui venait nous voir chanter la toune de Edge quand il voyait Edge arriver. C'était assez spécial, et je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent présentement, parce qu'il y a beaucoup de personnes de la lutte québécoise aussi qui ont passé par la brasserie du métro, vous savez exactement de quoi je parle, c'est vraiment un classique.
Moi, je l'écoute, je peux pas dire que je l'écoute souvent, ça m'est arrivé deux fois à date d'y aller, c'est à la Station des Sports sous invitation de J.F. Kelly, sur Sainte-Catherine, tout près du métro Berry-UQAM. Je sais pas si en fin de semaine, les gens vont se déplacer là, mais ça serait le fun, là, se faire un rendez-vous, là, tu sais, on appelle tout le monde, on se rend là.
Si je peux vendre la Station des Sports, le pichet de bière de 4 litres est à 15$.
Ah, c'est rien, ça, il nous plug une intraveineuse, quasiment. Non, mais il y a la draft, on paye, on fait toute une cote, puis on boit ce qu'on veut, puis après ça, on a le bill. Super intéressant. Dans les autres souvenirs qui nous ont été donnés, qu'est-ce qui se passe, Patricia, sur notre page TOW?
Un instant. Okay, j'ai Jesse. Ouais, mais avant, j'ai Jesse Champagne. Lui, son meilleur souvenir, c'est d'avoir jasé avec Édouard Carpentier pendant TOW5. Et serrer la main de Ted DiBiase à la CRW dernièrement.
Okay.
C'était une belle surprise pour lui. Puis il remercie Marc aussi d'y avoir confié la tâche d'accompagner M. Carpentier tout au long de la soirée.
Lucky Sabatier qui dit rencontrer et passer du temps avec Mason Rain et René Dupré lorsqu'il était en Angleterre. L'expérience au complet, au fait. Lève un peu, voir Patricia. Il y en a un qui a dit quoi, là? Mon meilleur. Lève. Lui, là. Maxime.
Meilleur, simplement la regarder avec mon grand-père.
Oh, c'est cute.
Maxime Langevin, ça, qui
ouais.
Ça,
ouais.
C'est beau. Marc, t'avais une photo de Andrew the Giant avec Frenchie
oui.
Martin.
Ça, c'est 1987 à Paris. J'ai les quatre affiches. Patricia, toi, tu l'as sûrement vu dans mon bureau, les quatre affiches publicitaires, ils disaient, les gens de Canal Plus, lors de cette tournée de la WWF, ils sont à sa démesure. Tu sais, c'est pas de d'hier qui parle pas de français comme faux, hein. Ils sont à sa démesure. Ils déchaînent Madison, puis c'était mon premier voyage en Europe. Et c'était fantastique, ça aussi, de me faire lancer à bout de bras par André le géant, parce que j'avais finalement trouvé, parce qu'il était disparu. Ça, c'était spécial.
Quand tu dialoguais avec André, est-ce que
vous parliez... Je dialoguais pas avec lui.
Tu parlais pas avec lui?
Il m'aimait pas.
Pour vrai?
Ouais.
Le géant t'aimait pas?
Non, m'aimait pas.
Pourquoi?
Je sais pas. J'ai jamais su. Peut-être que j'étais trop fendant. Je sais pas. Que il me parlait, là, mais il me parlait parce que j'étais chum avec Mean Gene, puis mais dans les entrevues, puis tout ça, là, il était pas. C'était de loin pas le. C'était pas mon grand chum comme Rick, Dino.
Mais est-ce qu'il te parlait en français?
Ben oui.
Ouais.
Ben oui.
Mais justement, moi, ce que je veux savoir, c'est que quand on est dans un environnement anglophone, les francophones, est-ce qu'ils se côtoyaient en anglais ou bien ils se parlaient en français entre eux autres?
Ben, en français. Tu sais, quand je parlais, moi, avec Dino, on se parle en français, avec Rick, c'est en français, avec Ronnie Garvin, c'est en français, avec Hulk Hogan, c'est en français.
Jacques Rougeau, Jake Rougeau, tu te rappelles ça?
j'ai eu la chance d'interviewer Maryse Ouellette la semaine dernière et elle me contait justement que à la cafétéria, elle et Pat Patterson se parlaient en français, mais les deux parlaient vraiment loud et elle trouvait ça très, très drôle parce qu'évidemment, il y a personne qui comprenne ce qu'ils disaient, puis tu sais, ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils veulent parce que justement, tu sais, c'est un présentement.
Ton entrevue, c'est que ça a donné. Je pensais d'avoir des highlights au cours de mon show.
Ça a été vraiment.
Tu gardes jalousivement cette entrevue.
Ça a été très bien. Vraiment très, très sweet, très sympathique, Maryse. 2 heures d'entrevue, très généreuse. Ça a été une belle entrevue. Il y a bien des affaires qu'elle m'a conté, que j'étais pas au courant, qui étaient vraiment, là, qui vont être des beaux ajouts, justement, pour le livre. Elle m'a raconté aussi, là, elle m'a surpris jusqu'à un certain point de la connaissance de la business qu'elle avait. Tu sais, on pense que, bon, les divas, présentement, ça fait des matchs de 1-2 minutes, ça sait pas trop où ça s'en va, tout ça, mais en même temps, tu peux pas être à WWE pendant 4 ou 5 ans et ne rien apprendre ou ne rien connaître quand tu sors de là. Et non, elle avait une bonne psychologie de ce qui devait se passer. Elle était pas d'accord avec les matchs de 1 ou 2 minutes, sauf que à ce moment-là, elle a été... est devenue valet avec Ted DiBiase Jr. Et quand je lui ai demandé, ça te dérangeait-tu, tu sais, de devenir valet au lieu de lutteuse? Elle dit pas du tout. Elle dit parce que pendant que les filles faisaient des matchs 3 contre 3, 4 contre 4 de 1 ou 2 minutes.
Elle avait son
spot. Moi, j'avais 10 minutes de temps d'antenne. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Parce que, évidemment, plus t'es souvent à l'écran, plus qu'ils vont, tu sais, plus tu vas faire de l'argent à bout de ligne, nécessairement, si personne te voit, ils te connaîtront pas. Ronnie Garvin, tu parlais de Ronnie Garvin, m'avait raconté quelque chose de similaire, parce qu'à un moment donné, à la WWF, il avait été l'arbitre d'un match opposant Greg Valentine, je me rappelle plus qui exactement, et c'était dans sa rivalité justement avec Greg Valentine, et je l'avais demandé, est-ce que ça vous faisait quelque chose d'être arbitre? Il dit pas du tout, c'était mon idée. Il dit, si je m'étais pas mis arbitre, j'aurais pas fait le pay-per-view. Donc, j'aurais pas eu une cote sur le pay-per-view. Donc, c'était pensé business et Maryse pensait vraiment business.
Ronnie Garvin, l'homme accessoire.
Ah, écoute...
Une serviette blanche.
Il savait pas qu'est-ce qu'il faisait à la WWF parce qu'il disait je danse pas, je chante pas, je ne rock and roll pas en anglais. C'était I can sing, I can dance, I can rock and roll. Il savait pas ce qu'il allait faire.
Mais
là,
il avait la serviette blanche et le maillot jaune.
Il avait pas fait WrestleMania 5 contre Dino Bravo.
Il a fait un WrestleMania contre Dino Bravo.
Ouais. Tu parles de jobber du côté des divas. J'ai découvert hier qu'il y avait une jobber, puis c'était Eve Torres, qui sert absolument à rien, à part se faire piner, faire la pancarte.
Et c'est de valeur, parce qu'à un moment donné, Eve Torres était la meilleure lutteuse qu'ils avaient après Natalya et Beth Phoenix. Gail Kim aussi, mais qu'ils n'utilisaient pas. Mais elle a eu des moments où elle était une très bonne lutteuse. Là, je vais me calmer dans mes qualificatifs. Puis là, évidemment, on fait presque rien avec elle. Là.
Rapidement, Pat, il y a eu une petite controverse la semaine dernière concernant une personnalité de la WWE qui est dans les filles. Elle a pris le nom d'une femme fatale. C'est quoi?
Ah oui de
Porcia Perez.
Oui, en fait ils ont pris le nom c'est pas une lutteuse mais je pense que c'est dans
NXT.
Ouais, c'est ça, ils ont pris le nom Porcia Perez et on s'entend. T'sais, bon.
Mais ma question c'est est-ce que elle détenait ses propres droits pour son nom puis elle a oublié de s'incorporer puis que là elle a plus de nom.
Non, pas nécessairement. Elle pourrait toujours, donc si ça ira en cours, elle pourrait dire qu'elle utilise ce nom-là depuis bien plus longtemps et elle gagnerait sûrement son point. Par contre, ce que je trouve un peu désolant, c'est que on n'est pas capable d'être original et d'arriver. Bon, on s'entend, Porsche Perez, j'adore la lutteuse, mais en même temps, elle est peut-être pas connue comme des divas ou des narrateurs de la TNA. Par contre, elle est quand même très connue dans le milieu de la lutte féminine. Elle a lutté un peu partout dans le monde pour Sir Perez, et je trouve juste ça désolant d'utiliser le même nom, et je peux pas croire, je m'explique difficilement comment on pourrait ne pas avoir été influencé par son nom à elle. Je veux dire, c'est pas comme s'il l'avait appelé Samantha Jones, ouais, qui est un nom très générique. Porsche Perez est quand même assez unique. Et bon, qu'est-ce que tu veux, c'est des choses qui
arrivent. On en parlera plus amplement la semaine prochaine. Mais Patricia qui commence à s'obstiner sur la TOW. Tommy Armstrong qui pensait avoir gagné un DVD, c'est tout ça?
Ben là, je suis allé voir. Non,
on a quatre gagnants, là.
Là, on a deux.
Moi, j'ai dit j'en donnais quatre.
Fait qu'on donne les
trois qui ont gagné
le
DVD Japan.
Okay.
OK, les trois qui ont eu M. Fuji, je leur donne chacun un DVD Japan.
Pascal Charlin, Mickey James.
Non, il y a Pascal Charlin
qui gagne Victory Road 2009.
Il y a Tommy Armstrong qui gagne le Global Impact Wrestling.
Là, comment qu'on fait pour le remettre?
Ben, l'idéal, ce serait qu'ils viennent ici à la station mardi prochain. Nous, on est ici à partir de 8h.
Moi, qui nous envoie un chèque qu'on leur envoie par la mer, mais...
Non, ça me dérange pas de payer les frais, là.
Moi, je suggère qu'on communique avec eux hors d'onde et qu'on trouve un moyen de leur envoyer ça.
Mais c'est plus simple, ce serait que par mon Facebook, qu'ils m'envoient leur adresse, puis on va leur envoyer.
OK.
Anson GF fait dire que son meilleur souvenir, ce sont ses débuts dans la lutte.
Ouais, il me l'a envoyé
ça,
aussi.
C'est une façon de fermer un show.
Non, parce qu'il nous reste encore
2 minutes et demie, c'est bon. Vas-y, Jacques Rougeau, le livre,
ce que j'ai pas eu le temps de dire tantôt. OK, le livre, là, je le répète, OK? Il est bien fait.
J'ai trois minutes.
Il est bien fait, esthétiquement. Plein de couleurs, couverture dure, il est vraiment, il tape à l'œil. Cependant, il y a de l'information là-dedans. 50%, c'est vraiment l'histoire de la lutte pour les nuls. C'est vraiment des choses de base que même des non-initiés pourraient connaître jusqu'à une certaine limite. Et il y a aussi de l'information qui est un petit peu déroutante. On dit à un moment donné, je donne un exemple, OK?
Ça commence bien, il y a 4 pages.
Je veux pas partir sur un rant, mais à un moment donné, il dit que le Grand Prix a commencé en 1968. Bon, ça a commencé en 1971, premièrement, mais en plus de ça, il dit que le Grand Prix a continué et est devenu lutte internationale. Ce qui est blasphémé pour moi, là, c'est vraiment, ça a aucun bon sens d'écrire ça. Et en plus, il dit que par la suite, la télévision a commencé à être moins populaire parce qu'elle était diffusée les dimanches matin et c'était pre-tapé, c'était pré-enregistré et que ça a été comme ça jusqu'en 85-86. Et ça non plus, là, ça m'abère de lire des choses comme ça. Je suis vraiment désolé.
Commentateur des Canadiens.
Pierre Hood qui fait la préface du livre de Jacques. C'était une bonne idée, Jacques. C'était vraiment... je pense qu'il aurait pu faire quelque chose de très, très bien. Il y a des choses, par exemple. Bon, il raconte sa rivalité avec Dynamite Kid sur 10 pages. C'est vraiment là, très intéressant. Il y a des choses intéressantes, mais il y a aussi de la désinformation et il y a aussi beaucoup de choses un petit peu trop basic à mon goût. Et écoutez, achetez-le 35$ chez Renaud-Bray Archambault. Moi, je le vois, et Bertrand, j'espère, va être d'accord avec moi, je le vois comme une préface de notre livre, parce qu'il explique les concepts.
La première partie.
Il explique les concepts généraux. Nous autres, on va rentrer dans les détails avec la bonne information.
Mais le livre, tu me parlais tantôt là, de Marie Zouellette. C'est pas fini, le livre?
Ben, le livre est présentement chez l'éditeur Marc. Donc, l'édition n'est pas encore terminée. Il n'est pas rendu chez l'imprimeur. Donc, on a toujours la liberté de faire quelques changements à gauche
et
à droite.
Ça sort quand?
Ça va sortir l'automne 2012.
Patricia, qu'est-ce qu'Anson GF, il dit
Anson Marc? GF nous interrompt à la fin pour nous dire que André le géant a fait le lancer du nain avec Blondin.
Ben, en fait, il te pose la question. Est-ce qu'il a fait le lancer du nain avec toi?
De jardin.
T'as-tu déjà bu de la bière ou du vin avec André, non?
Oui.
Oui? Bon, il paraît qu'il avait le coude assez...
Tu peux pas prendre un coup avec quelqu'un qui t'aime pas, Marc.
Ça dépend.
Tu t'en rappelles-tu?
Moi, c'était Min Jean. Min Jean, c'était le grand chum à... C'était le grand chum à André.
Il t'appelait tu boss?
Non.
Non. Mais il appelait tout le monde boss. André, il appelait tout le monde boss. Peut-être juste ceux qui aimaient, finalement.
Sauf moi. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, tout le monde. C'était l'édition spéciale des souvenirs de nos collaborateurs.
Et là, moi, je m'en vais à mon émission spéciale Les rêves. M'en me coucher!
Tu t'en vas rejoindre, l'amour de ta vie, tes lunettes. Salut, tout le monde. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. 12e épisode la semaine prochaine qui sera la dernière pour la pause du temps des fêtes. Comme dirait Sylvain Grenier, qui s'est pas pointé aujourd'hui. Ciao, ciao.